Chapitre 12. Les malheurs de Madame Van Brandt. Un homme qui a passé une soirée comme celle que je viens de raconter peut ensuite aller se coucher s'il n'a rien de mieux à faire. Mais il ne doit pas compter au compte de ses prévisions raisonnables l'espoir de reposer la nuit. La matinée était assez avancée et l'hôtel en mouvement quand le sommeil vint me fermer les yeux. Lorsque je me réveillai, ma montre m'indiqua qu'il était près de midi. Je tirai la sonnette. Mon domestique parut, une lettre à la main. Il y avait 3 heures que cette lettre avait été apportée pour moi par une dame qui était venue en voiture jusqu'à la porte de l'hôtel et s'en était allée de même. En entrant dans ma chambre, le domestique m'avait trouvé endormi et, comme il n'avait pas reçu l'ordre de m'éveiller au jour, il avait laissé la lettre sur la table de l'antichambre jusqu'au moment où il avait entendu ma sonnette. Devinant facilement quel pouvait être mon correspondant, j'ouvris la lettre. Il en tomba une enveloppe à laquelle je ne prêtai pour l'instant aucune attention. La lettre seule m'intéressait. J'en dévorai les premières lignes. Elle m'annonçait que celle qui m'écrivait venait de m'échapper une seconde fois. Elle avait quitté Édimbourg de bonne heure dans la matinée. L'enveloppe tombée par terre renfermait ma lettre d'introduction qu'on me renvoyait. Je fus plus irrité contre elle, je ressentis sa seconde fuite comme un outrage direct. Je m'habillai en 5 minutes et je me rendis à l'auberge de la Cannon Gate aussi promptement qu'un cheval pouvait m'y conduire. Les domestiques ne purent me donner aucune information. Sa fuite s'était effectuée à leur insu. L'aubergiste, à laquelle je m'adressai ensuite, refusa net de m'aider d'aucune manière. « J'ai promis à la dame, me dit cette femme obstinée, de ne pas répondre un mot aux questions que vous pourriez m'adresser sur elle. Elle agit, suivant moi, comme une honnête femme, en se dérobant à tout nouveau rapport avec vous. Je vous ai vu à travers la serrure la nuit dernière, monsieur. Je vous souhaite le bonjour. » De retour à mon hôtel, je tentai tous les moyens pour découvrir ce qu'elle était devenue. Je retrouvai le cocher qui l'avait conduite. Il l'avait descendue devant une boutique où elle l'avait congédiée. Je questionnai le boutiquier. Il se rappela avoir vendu quelques articles de lingerie à une dame dont le voile était baissé et qui portait à la main un sac de voyage, mais c'était tout. Je donnai son signalement dans différents bureaux de voiture. 3 jeunes dames élégantes, au voile baissé et un sac de voyage à la main, répondaient au signalement. Mais laquelle des 3 était la fugitive que je recherchais, c'est ce qu'il me fut impossible de deviner. À l'époque des chemins de fer et du télégraphe électrique, j'aurais pu parvenir à retrouver ses traces. Mais à l'époque dont je parle, elle défia toutes mes recherches. Je lus et relus sa lettre dans l'espoir que quelques mots échappés à sa plume me fourniraient le fil conducteur que je n'avais pu trouver ailleurs. Voici le récit qu'elle m'adressait, copié mot pour mot sur l'original. Cher monsieur, pardonnez-moi de vous fuir de nouveau, comme je l'ai fait dans le Perthshire. Après ce qui s'est passé hier soir, et connaissant ma propre faiblesse et l'influence que vous paraissez exercer sur moi, je n'ai pas d'autre parti à prendre que celui de vous remercier cordialement de vos bontés et de vous dire adieu. Ma triste position me servira d'excuse pour me séparer de vous aussi impoliment et pour oser vous renvoyer votre lettre d'introduction. Si je m'en servais, je ne ferais que vous donner les moyens de communiquer avec moi et, dans votre intérêt comme dans le mien, cela ne doit pas être. Je ne dois pas vous fournir une nouvelle occasion de me dire que vous m'aimez. Il faut que je parte sans laisser derrière moi aucune trace qui puisse vous servir à me retrouver. Mais je ne puis oublier que je dois ma pauvre existence à votre compassion et à votre courage. Vous m'avez sauvé et vous avez dès lors le droit de connaître le motif qui m'avait poussé à me noyer et ma situation actuelle, puisque grâce à vous, je vis encore. Vous allez lire ma triste histoire, monsieur, et je tâcherai de vous la raconter aussi brièvement que possible. Je me suis marié, il n'y a pas très longtemps, à un gentleman hollandais nommé Van Brandt. Excusez-moi, je vous prie, de me taire sur ma famille. J'ai essayé de vous parler de feu, mon cher père, et de notre ancien intérieur, mais les larmes me montent aux yeux en songeant à mon heureux passé. je ne puis réellement pas lire ce que je tente d'écrire. Laissez-moi donc me borner à vous dire que M. Van Brandt avait été très recommandé à mon père avant notre mariage. Je viens seulement d'apprendre qu'il avait obtenu ses recommandations sous un faux prétexte qu'il est inutile de vous dévoiler. Ignorante de son passé, je vivais heureuse avec lui. Je ne puis loyalement affirmer qu'il ait été l'objet de mon premier amour, mais il était la seule personne au monde sur laquelle je puisse m'appuyer après la mort de mon père. Je l'estimais et l'honorais, et je puis dire sans vanité que je fus pour lui une excellente épouse. Le temps s'écoula donc, monsieur, assez heureusement, jusqu'au soir où nous nous rencontrâmes sur le pont. J'étais seule dans notre jardin, occupée à émonder nos arbustes, lorsque la servante vint me prévenir qu'une dame étrangère, arrivée à la porte en voiture, désirait parler à Madame Van Brandt. Je chargeai la bonne d'aller en avant, introduire la dame dans le salon, et je la suivis pour recevoir ma visiteuse, aussitôt que j'eus réparé le désordre de ma toilette. C'était une terrible femme, au visage ardent et coloré, aux yeux brillants et impudents. « Êtes-vous Madame Van Brandt ? » dit-elle. Je répondis « Oui ».« Êtes-vous réellement mariée ? » me demanda-t-elle. Cette question, assez naturellement, je pense, me fit sortir de mon caractère. « Comment osez-vous en douter ? » lui dis-je. Elle me rit au visage. « Envoyez chercher Van Brandt ! » s'écria-t-elle. Je sortis dans le corridor et j'appelai mon mari pour le faire descendre de la chambre où il était occupé à écrire. « Ernest, lui criai-je, il y a ici une personne qui vient de m'insulter. Descendez de suite !» Il sortit de sa chambre dès qu'il m'entendit. La femme me suivit dans le corridor pour l'aborder. Elle lui fit un profond salut. Il devint mortellement pâle en l'apercevant. Cela m'effraya. Je lui dis, « Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» Il me prit par le bras et répondit, « Vous le saurez bientôt. » « Retournez au jardin et ne revenez dans la maison que lorsque je vous appellerai. » Ses regards étaient si affreux, ils se ressemblaient si peu, que je déclare qu'il m'effraya. Je me laissai conduire jusqu'à la porte du jardin. Il me serra la main. « Par égard pour moi, chérie, murmura-t-il, faites ce que je vous demande. » J'entrai dans le jardin et je m'assis sur le banc le plus proche pour y attendre misérablement ce qui allait arriver. Combien de temps j'y restai, je l'ignore. Mon inquiétude atteignit enfin un tel point que je ne pus la supporter plus longtemps. Je m'aventurai à rentrer dans la maison. J'écoutai dans le couloir et je n'entendis rien. Je m'approchai de la porte du salon, le silence y régnait. Je pris courage et j'ouvris la porte. La pièce était vide. Il y avait une lettre sur la table. Je l'ouvris et la lus. Elle m'apprit que j'étais abandonnée, déshonorée, ruinée. La femme au visage ardent, aux yeux impudents, était la femme légitime de Van Brandt. Elle lui avait donné à choisir entre partir immédiatement avec elle ou être poursuivie pour bigamie. Il était parti et m'avait abandonnée. Rappelez-vous, monsieur, que j'avais perdu mon père et ma mère. Je n'avais pas d'amis. J'étais seule au monde, sans un être près de moi pour me consoler ou me conseiller. Et souvenez-vous aussi que j'ai un caractère qui ressent très vivement les plus petits manques d'égards et les moindres injures. Vous demanderez-vous maintenant ce qui occupait mes pensées ce soir-là sur le pont ? Songez à ceci. Je n'aurais jamais tenté de me détruire moi-même si j'avais seulement pu pleurer. Un abasourdissement stupide comprima comme dans un étau ma tête et mon cœur. Je me dirigeai droit vers la rivière et je me dis tranquillement en marchant « Voici la fin de tout et le plus tôt sera le mieux. » Ce qui suivit, vous le savez aussi bien que moi. Je puis donc passer au lendemain matin lorsque je vous laissai, avec tant d'ingratitude, dans l'auberge au bord de la rivière. Je n'avais qu'une raison, monsieur, de partir par la première voiture qui pourrait m'emmener, et c'était la crainte que Van Brandt ne parvint à me trouver si je restais dans le Perthshire. La lettre qu'il avait laissée sur la table était remplie d'expressions d'amour et de remords, sans parler des excuses de son infâme conduite envers moi. Il déclarait qu'il avait été entraîné à épouser secrètement une femme perdue, quand il n'était encore presque qu'un jeune homme. Ils avaient vécu longtemps séparés d'un commun accord, et quand il m'avait courtisée, il avait toute raison de croire qu'elle était morte. Comment avait-il été trompé à cet égard, et comment avait-elle appris qu'il m'avait épousée? C'est ce qui lui restait à découvrir. Connaissant son caractère emporté, il avait suivi, comme le seul moyen de prévenir une plainte en justice et un scandale dans le voisinage. Dans un jour ou deux, il comptait racheter sa liberté contre un supplément à la location pécuniaire qu'elle avait déjà reçue de lui. Puis il reviendrait me prendre pour me conduire à l'étranger et me mettre à l'abri de tout nouvel ennui. Comprenez-vous maintenant, monsieur, le risque que je courais d'être découverte par lui si je restais dans votre voisinage ? La seule pensée m'en faisait frissonner. J'étais résolue à ne jamais revoir l'homme qui m'avait si cruellement trompée. Je suis toujours dans les mêmes dispositions, avec cette différence que je consentirais peut-être à le voir si j'étais positivement certaine de la mort de sa femme. Mais cela n'est pas probable. Je poursuis donc ma lettre pour vous raconter ce que je fis en arrivant à Édimbourg. Le cocher me recommanda dans la maison de la Canongate que vous m'avez vue habiter. J'écrivis le jour même à des parents de mon père résidant à Glasgow pour leur dire où j'étais et dans quelle position désespérée je me trouvais. Je reçus une réponse par retour du courrier. Le chef de la famille et sa femme me priaient de ne pas venir à Glasgow. Ils avaient affaire à Édimbourg et je pouvais compter les voir tous les deux prochainement. Ils arrivèrent selon leurs promesses et se montrèrent assez aimables. En outre, ils m'avancèrent une petite somme d'argent lorsqu'ils eurent constaté combien ma bourse était mal garnie. Mais je ne pense pas que le mari et la femme s'intéressassent beaucoup à moi. Ils me conseillèrent, en partant, de m'adresser à d'autres parents de mon père qui habitaient en Angleterre. Je suis peut-être injuste envers eux, mais je m'imagine qu'ils étaient, comme on dit vulgairement, pressés de se débarrasser de moi. Le jour où le départ de mes parents me laissa sans amis fut aussi le jour, monsieur, où j'eus le rêve ou la vision que je vous ai déjà raconté. Je restai dans la maison de la Canongate, en partie parce que l'aubergiste se montra bonne pour moi, en partie parce que j'étais si découragée par ma position que je ne savais réellement que faire. C'est dans cette misérable condition que vous m'avez découverte pendant ma promenade favorite de Holyrood au puits de Saint-Antoine. Croyez-moi, votre bienveillant intérêt à mon sort n'est pas tombé sur une femme ingrate. Je ne pouvais demander à la Providence de plus grand bonheur que de trouver un frère et un ami tel que vous. Vous avez vous-même détruit cette espérance par vos paroles pendant que nous nous trouvions seuls dans la salle de l'auberge. Je ne vous blâme pas. Je crains qu'à mon insu, mes manières n'aient pu paraître vous donner quelque encouragement. Je suis seulement chagrine, très chagrine, qu'il ne me reste pas d'autre parti honorable à prendre que celui de ne plus vous revoir. Après mûre réflexion, je me suis décidée à aller trouver les parents de mon père, auxquels je ne me suis pas encore adressée. La seule chance qui me reste, c'est d'être aidée par eux à gagner honorablement ma vie. Dieu vous bénisse, monsieur Germaine. Je vous souhaite prospérité et bonheur du fond de mon âme et je suis votre servante reconnaissante, M. Van Brandt. Postscriptum. Je signe mon nom ou le nom que j'ai cru jadis être le mien comme preuve que j'ai honnêtement écrit la vérité sur moi du premier mot jusqu'au dernier. À l'avenir, il me faudra pour ma sûreté personnelle en prendre un autre. J'aurais aimé à reprendre celui que je portais lorsque j'étais une heureuse petite fille. Mais Van Brandt le connaît, et de plus, si innocemment que ce soit, peu importe, je l'ai avili. Adieu, monsieur, et encore une fois, merci. Ainsi se terminait la lettre. Je la lus avec l'humeur d'un homme complètement désappointé et parfaitement déraisonnable. Quoi qu'eût fait la pauvre Madame Van Brandt, elle avait eu tort. Elle avait eu tort en premier lieu de se marier. Elle avait eu tort de songer à revoir M. Van Brandt si sa femme légitime venait à mourir dans l'intervalle. Elle avait eu tort de me renvoyer ma lettre d'introduction après la peine que je m'étais donnée pour la modifier au gré de son caprice. Elle avait eu tort d'envisager d'un point de vue absurdement prude une tendre déclaration et de m'avoir fui comme si j'étais un aussi grand coquin que M. Van Brandt lui-même. Enfin, épique que tout cela, elle avait eu tort de ne signer que la lettre initiale de son nom de baptême. Je me trouvais passionnément amoureux d'une femme et je ne savais pas par quel nom chéri l'identifier dans mes pensées. M. Van Brandt. Je pouvais l'appeler Maria, Marguerite, Marthe, Mabel, Madeleine, Marie. Non, pas Marie. Mon ancien amour enfantin était mort et disparu, mais je devais quelque respect à sa mémoire. Si la Marie de mes jours d'enfance vivait encore, et si je l'avais rencontrée, m'aurait-elle traitée comme l'avait fait cette femme? Jamais. C'était faire injure à Marie que de prêter son nom à cette créature sans cœur. À quoi bon y penser encore? À quoi bon me dégrader moi-même en m'efforçant de découvrir dans sa lettre un moyen de la retrouver? C'était pure folie que d'essayer de poursuivre une femme partie je ne savais où et qui m'informait elle-même qu'elle allait prendre un nom d'emprunt. Avais-je perdu tout orgueil, tout respect de moi-même? À la fleur de l'âge, avec une belle fortune, ayant devant moi le monde rempli de visages féminins intéressants et de tailles féminines charmantes, quelle partie me convenait-il de prendre? Retourner à ma maison de campagne et y pleurer la perte d'une femme qui m'avait délibérément abandonnée? Ou bien commander un courrier et une voiture de voyage et l'oublier gaiement à l'étranger, au milieu de figures et de scènes nouvelles? Dans mon état d'humeur, l'idée d'un agréable tour d'Europe enflamma mon imagination. J'étonnai d'abord les gens de l'hôtel en donnant l'ordre de discontinuer toute recherche concernant la Madame Van Brandt disparue. Puis j'ouvris mon pupitre et j'écrivis à ma mère pour lui annoncer franchement et entièrement mes nouveaux projets. Sa réponse m'arriva par le retour du courrier. À ma grande surprise et à ma vive satisfaction, ma bonne mère ne se bornait pas à approuver formellement ma nouvelle résolution. Avec une énergie que je n'aurais pas osé attendre d'elle, elle avait pris ses arrangements pour quitter la maison et elle était partie pour Édimbourg afin de devenir ma compagne de voyage. « Vous ne partirez pas seul, Georges, m'écrivait-elle, tant qu'il me restera assez de force et de courage pour vous tenir compagnie. » Trois jours après, nos préparatifs étaient terminés et nous nous dirigions vers le continent.